Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, ce jeudi soir, un Tech & Co un peu particulier, voire exceptionnel. Nous sommes à la Paris Blockchain Week avec évidemment mon camarade Frédéric Simotel qui va m'accompagner pendant ces deux heures. Fred, t'as révisé tes cryptos, tes NFT, tout ça, c'est bon ?
Je suis à fond.
On est nickel, vous allez voir. Évidemment, on va explorer ce domaine. Pas forcément facile, hein, assez abstrait. Mais on va chaque fois essayer de vous raconter des histoires, et notamment, première histoire, quelle belle histoire, l'une des pépites de ce Web3 en France, il s'agit de Sorare. Et Brian O'Hagan est avec nous. Bonjour Brian, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Merci d'être là. Vous êtes responsable donc du développement et de la communauté de Sorare. Alors, rapidement, Sorare, parce que je pense qu'il y a... C'est vous qui l'expliquerez le mieux. Vous mettez foot, vous mettez sport, vous mettez NFT, crypto. Expliquez-nous ce que c'est.
Alors, chez Sorare, on a l'ambition de créer une des plus grandes marques dans le sport au monde. Mais ce que c'est vraiment la combinaison de trois passions. La première, c'est la passion de la collection, donc le fait de collecter des cartes de sportifs numériques. La deuxième, c'est la passion du jeu. On a créé un jeu de fantasy football où on peut constituer des équipes avec ces cartes de collection. Et la troisième, c'est l'expérience communautaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir se connecter à des fans de foot dans le monde entier d'un point de vue numérique, mais également de se connecter auprès de ces sportifs en collectionnant leurs cartes et en gagnant des récompenses qui peuvent vous amener à les rencontrer, lors de séances d'entraînement, etc. Donc c'est à peu près ces trois combinaisons.
Alors ça veut dire que pour vous développer, Brian, vous avez signé avec des fédérations. Alors c'est la première ligue. Enfin, il y a la première ligue. Il y a dans le domaine. Enfin, je parle du foot, mais il y a le domaine du basket. Il y a tout un tas de domaines. Et c'est comme ça qu'on doit se développer parce qu'il y a des histoires de droits à l'image. Enfin, c'est un peu. On vous compare souvent. Alors pour les plus anciens, évidemment, au catalogue Panini, parce qu'il fallait aller négocier avec les clubs, c'est avec vrai. Les fédérations, pour pouvoir utiliser l'image des joueurs. Là, c'est un peu la même chose dans les trois domaines, c'est-à-dire dans le l'achat de figurines enfin numériques, le jeu
droit,
et puis
le droit d'image aussi des joueurs, je pense.
Tout à fait. Tout ce qu'on fait en fait est sous licence officielle, donc en partenariat avec les ayants droit, que ce soit les ligues de foot, les clubs de foot et du coup les joueurs de foot. Aujourd'hui, on a plus de 300 partenariats. On est partenaire des plus grandes ligues de foot au monde, dont la première ligue, mais on est également partenaire de la NBA et de la MLB puisqu'on a lancé un jeu de basket et un jeu de baseball en 2022.
Et alors, comment vous vous rémunérez ? Parce qu'évidemment, on va signer avec la NBA ou la Premier League. Ils vous voient arriver. Ils vont pas. Voilà, c'est pas les grandes portes s'ouvrent. Enfin, les portes s'ouvrent, mais il y a quand même des négociations assez sérieuses. Donc, comment on arrive quand on est une jeune entreprise ? On vient sur des sports mondiaux. Enfin, couverture
très
mondiale.
Populaire, très populaire.
L'argent circule. Enfin, voilà, on va pas revenir sur les salaires des joueurs et tout ça. Mais voilà, comment on arrive à s'imposer et à gagner sa vie ?
Au fur et à mesure, c'est un marathon. On a commencé en 2018, d'abord avec la Ligue belge. Et après, au fur et à mesure, on a réussi à convaincre de plus en plus d'ayants droit, de plus en plus de clubs, ce qui nous a permis de créer une forme de crédibilité. Et aujourd'hui, en fait, on se rémunère en vendant des cartes. C'est notre source de revenus principale. Mm-hmm. Il est également possible de prendre une commission sur le marché secondaire. Et à travers tous ces partenariats que l'on a, on a réussi à vraiment créer une crédibilité auprès de ces différentes marques de sport, de ces différents sportifs, puisqu'on a aussi avec nous dans notre capitale plusieurs grands sportifs qui nous accompagnent, oui. Tels que Serena Williams, Lionel Messi, Antoine Griezmann, qui nous aident aussi à développer cette crédibilité.
Fred, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu avais ton catalogue Panini, tu échangeais parfois quelques cartes contre des bonbons, des billes supplémentaires. Ouais. Là, il y a quand même une carte qui s'est vendue plus de 600 000 euros. C'était une carte unique, en fait. Hein. C'était la carte de l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland. Donc, 600 000 euros, c'est incroyable, en fait. Il y a des gens qui sont prêts à investir ces sommes-là.
Il y a des gens qui sont prêts à investir des sommes différentes pour différents types de choses. Il y a des cartes dans le monde du baseball qui sont revendues pour 12 millions de dollars, des cartes physiques. Là, en l'occurrence, le prix de la carte dépend en fait vraiment de la rareté, de la demande.
C'est la loi de l'offre et de la demande.
Exactement.
En fait.
Et donc, quelqu'un était prêt à acheter cette carte pour ce prix-là. Mais de la même manière, on vend également des cartes à 50 centimes, à 1 euro. Donc, il y a un marché pour tout le monde sur Sorare.
Il y Bien sûr.
Alors, je reprends encore l'analogie avec les figurines Panini, parce que c'était un petit marché, voilà, c'était des sommes beaucoup moins importantes. Est-ce que, voilà, quand on vend une carte, quand une carte est vendue 600 000, c'est une exception, mais enfin, il y a quand même des choses qui sont à 10, 20 000, 30 000 euros. Est-ce que là, il n'y a pas une volonté, parfois, des sportifs, de leurs agents, reprendre un peu la main dessus? Donc, comment vous arrivez à négocier avec eux, à vous débrouiller, puis à sortir de...
En fait, à travers les partenariats qu'on a avec les clubs et les ligues, on est directement en partenariat aussi avec ces sportifs. Du coup, on collabore avec eux et ils font partie de ce cercle vertueux qui se développe sur Sora. Sora, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est connue dans le monde des sportifs. Ah oui. Les sportifs savent que
justement... Il y a
une confiance qui s'installe. Et il n'est pas rare, justement, qu'un sportif sur les réseaux sociaux peut voir des membres de la communauté Sora en leur disant « J'ai ta carte pour ce week-end, je te supporte, etc. etc. Tu vas faire un super bon match. » Et c'est justement vers ce genre... d'expérience positive que l'on veut aller et qu'on souhaite développer.
Est-ce que ça veut dire qu'en termes de plateforme technologique, il y a un lourd investissement de votre part?
Alors nous, en fait, ce pourquoi on est là à la Paris Blockchain Week, c'est justement parce qu'on utilise une technologie qui est liée, qui est la technologie des tokens non fongibles. Après, cette technologie, elle est vraiment au service de l'expérience. C'est-à-dire qu'on souhaite abstraire cette technologie et faire en sorte que quelqu'un qui vient ce soir n'ait pas besoin de comprendre ce qu'est la blockchain, ce que sont les NFT, de la même manière que quelqu'un qui surfe sur Internet ne comprend pas forcément ce qu'est HTTPS, etc.
C'était peut-être le problème l'année dernière, non, en fait, et qui a valu un peu cette explosion de ce marché-là, enfin l'explosion dans le mauvais sens du terme, c'est que finalement, au lieu d'expliquer on se focalisait trop sur la technologie et non pas sur les usages.
Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est les usages qui priment et qui feront en sorte que cette technologie sera omnisciente et sera partout. Et nous, c'est ce qu'on défend chez Sora à travers l'usage du jeu vidéo que l'on développe. Et au final, la technologie n'est qu'en arrière-plan et vous ne verrez très rarement Sora en fait parler de la technologie en tant que telle.
Fred, quelques chiffres sur Sora, oui. Parce que franchement, bon, vous êtes l'une des belles réussites de la tech française, hein. 3 millions d'inscrits. Alors, je sais pas, peut-être que les chiffres ont évolué, mais en tout cas, sur ma fiche, c'est ça. 500 000 nouveaux inscrits uniquement sur le mois de décembre. Donc, on voit quand même la progression exponentielle. On se souvient aussi de cette levée de fonds de 680 millions. C'était en 2021. Il vous faut du cash parce que ce cash, vous le brûlez justement. Évidemment avec cette technologie, mais aussi avec les acquisitions de licences. On le voit là avec la Première Ligue. La Première Ligue, ça vous a coûté 37 millions.
Alors, ça coûte de l'argent, effectivement, d'être partenaire de ces ligues. Et la Première Ligue, c'est un peu le Graal de toutes les ligues de football. Donc, c'est la plus grande ligue de football. On l'a annoncé le 30 janvier. Et pour nous, c'était très important pour pouvoir se développer, justement, en Angleterre et aux États-Unis. Et donc, effectivement, on a besoin de ce cash. Mais de la même manière, en fait, ces ligues, grâce à ce cash et grâce au fait que nous avons la propriété intellectuelle des joueurs, se développent sur Sora en développant leur marque dans les marchés où nous avons de grosses communautés.
Aujourd'hui, donc vous êtes, on considère, dans les médias on aime bien parler de ça, des licornes, mais comment vous sentez un peu le marché de l'investissement aujourd'hui? On a senti qu'il y avait un coup de frein, alors pour différentes raisons, l'inflation, enfin voilà, toutes les raisons que l'on peut imaginer. Est-ce que vous sentez il y a un petit passage à vide? Est-ce que, parce qu'on sent quand même qu'il y a de l'argent, hein, on discute avec des investisseurs ici que l'on croise dans les allées. Il y a de l'argent, il faut un peu le réussir à le débloquer. Comment ça se passe? Enfin, comment vous ressentez un peu l'ambiance?
Non, je pense que vous avez raison. Il y a de l'argent. Aujourd'hui, ce qui est important pour les investisseurs et pour les entrepreneurs, c'est de développer des business qui arrivent à avoir une certaine forme de profitabilité. C'est important pour tout business. Ouais. Et du coup, voilà, on n'est plus dans le monde de 2021. On est dans un nouveau monde où il faut justement faire attention aux coûts.
Plus de discipline financière.
Exactement. Il faut se développer avec plus de discipline financière. Chez Sora, on a eu la chance d'être profitable pendant de nombreuses années. Là, on a investi justement pour avoir cette licence sur la MLB, cette licence sur la NBA, pour développer le marché américain qui nécessite un certain investissement, mais toujours dans un but de profitabilité à moyen terme.
Aujourd'hui, vous êtes sur le segment du sport. On voit qu'il y a un secteur qui explose, c'est le jeu vidéo. Est-ce que le jeu vidéo vous intéresse? Est-ce que l'une des futures, en tout cas, idées de Sora serait de se lancer dans le jeu vidéo?
Alors, on est une boîte de jeux vidéo puisque on édite un jeu de fantasy football. Et ce jeu, c'est un nouveau type de jeu. Donc, on crée une nouvelle catégorie, en fait, un nouveau marché dans le jeu vidéo. On pense que, justement, les NFT permettent de rendre le pouvoir aux joueurs dans le monde du jeu vidéo. Je m'explique. Aujourd'hui, sur Sorare, lorsqu'on possède une carte Sorare, on peut en faire ce que l'on souhaite. On peut l'utiliser sur Sorare, mais également ailleurs. On peut la revendre sur Sorare, mais également ailleurs. Et du coup, cette liberté-là redonne vraiment le pouvoir aux joueurs. Il faut savoir que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui pèse 100 milliards. Et dans ces 100 milliards, il y a justement beaucoup de personnes qui achètent des items de jeux vidéo, tels que des épées, des skins, etc., qu'ils ne possèdent pas vraiment, puisqu'ils ne peuvent pas en faire ce qu'ils souhaitent.
Aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans le sport. Est-ce que vous pourriez sortir de ce secteur-là ?
C'est pas impossible. Après, le sport reste et restera toujours notre priorité. Aujourd'hui, on a trois sports, trois des plus grands sports au monde : le foot, le basket et le baseball.
Tennis. Ah non.
Non, le baseball, tout à fait, qui est un des plus grands sports aux États-Unis. Et pour 2023, on souhaite consolider ces trois sports, continuer à développer une expérience qui est de plus en plus attrayante pour le commun des mortels et pour tous les fans de sport. Et peut-être qu'à terme, on se développera sur d'autres sports.
Est-ce qu'en termes de concurrence aujourd'hui, quel est le profil de vos concurrents ? Est-ce qu'il y a un Sorare bis qui existe quelque part ? Ou est-ce que ça peut être, je sais pas quoi, une fédération qui pourrait reprendre la main sur ces joueurs ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est des contrats exclusifs ? C'est-à-dire, si je monte un Sorare bis demain, je peux pas aller signer avec la NBA ou avec la Premier League ?
Tous les contrats qu'on signe sont des contrats exclusifs, qui justement permet de créer de la valeur aussi sur ces cartes, oui, puisque en tant que collectionneur Sorare, je sais qu'il n'y aura pas de cartes qui auront un usage similaire. Après, il y a des formes de compétition, c'est-à-dire qu'il y a quand même des sociétés qui éditent d'autres types de NFT adossés sur l'image de sportif, mais qui n'ont pas la valeur d'usage qu'on peut trouver sur Sorare, c'est-à-dire valeur d'usage dans un jeu vidéo.
Avec
dans
le jeu vidéo, la communauté, etc.
Exactement.
C'est ça qui fait. Et alors ça, c'est l'une de votre premières spécificités. Et la deuxième, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, vous réussissez à démocratiser. C'est-à-dire, même si je ne sais pas trop les NFT, j'en ai entendu parler, je ne sais pas comment ça marche, vous avez réussi quand même à démocratiser tout ça et à se dire, même si je suis un novice dans ce domaine, je peux acheter ma carte, je peux investir et commencer à jouer.
L'accessibilité, en fait, c'est vraiment le cheval de bataille pour faire rentrer cette technologie et la démocratiser. Et donc, justement, vous, n'importe qui ne possède pas de crypto-monnaie, peut aller sur Sorare, acheter des cartes avec une carte de crédit normale et n'a pas besoin de comprendre ce qu'est la crypto-monnaie puisque tout cela n'est pas adossé au marché des crypto-monnaies.
Eh bien, merci beaucoup, Brian O'Hagan, donc responsable du développement de la communauté de Sorare.